Et à toutes, que le Seigneur nous donne de passer une bonne année avec lui. Cet après-midi, nous abordons donc le cinquième des sept miracles que Jésus accomplit et qui sont racontés dans l'évangile de Jean. Je rappelle que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. D'ailleurs, Jean, l'évangéliste, le dit à la fin de son évangile, que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais que ces miracles sont racontés pour que nous croyions que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie en son nom. Donc, je rappelle le but de chaque récit que Jean fait d'un miracle accompli par Jésus, c'est de nous permettre de croire. Plus nous lisons les évangiles, plus nous lisons la vie de Jésus et ce qu'il a fait, plus nous sommes appelés à croire en lui, parce que tout ce qui nous est raconté dans l'évangile, dans les quatre évangiles et dans l'évangile de Jean, pour nous cet après-midi en particulier, nous permet de comprendre non seulement qui est Jésus, mais par ce moyen-là, de comprendre qui est Dieu. Puisque vous le savez, Dieu est venu en chair et en os, comme on pourrait dire en français, en chair et en os, dans la personne de Jésus, nous montrer qui il est vraiment. Le miracle que nous lisons cet après-midi, qui vient d'être lu, est raconté également dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc, avec deux petits détails, j'allais dire deux différences. Non, ce ne sont pas deux différences, mais c'est deux détails supplémentaires chez Matthieu et chez Marc, à savoir que c'est Jésus qui a donné l'ordre à ses disciples de monter dans la barque et de partir de l'autre côté, du lac de Galilée, pendant que lui renvoyait la foule et pendant que lui montait sur la montagne pour prier. Dans le verset, au moment où nous l'avons lu, voilà, il n'est pas écrit que Jésus est monté sur la montagne pour prier, c'est dans Matthieu et Marc, qu'il est dit, après la multiplication des pains, nous avions parlé de cela la dernière fois, après avoir multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule de 5000 hommes, plus leurs femmes et leurs enfants, donc peut-être 20 000 personnes, après avoir multiplié les pains et les poissons, Jésus a renvoyé la foule, a donné l'ordre à ses disciples de passer tout de suite dans la barque pour aller avant lui de l'autre côté de la mer, du lac. Et la Bible, dans Matthieu et Marc, dit « Jésus, pendant que ses disciples prenaient la barque, et commençait la traversée du lac, Jésus s'est retiré sur la montagne pour aller prier. » Jésus s'est retrouvé donc seul. Je lis dans Matthieu 14, 33, « Jésus obligea ses disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, et ensuite il est sorti pour aller prier. » Enfin, il est resté dehors parce qu'il était déjà dehors. Il est monté sur la montagne pour se retirer et pour prier. Donc cette histoire, c'est d'abord l'histoire de la solitude de Jésus. Jésus renvoie ses disciples devant lui, il les envoie devant lui, et il reste seul, et il se retire pour prier. C'est un détail important que ne mentionne pas Jean. Il dit simplement, ils montèrent dans un bateau pour se rendre à Capharnaüm, sur l'autre rive de la mer. Les ténèbres, la nuit était déjà là, et Jésus n'était pas encore venu à eux. C'est la nuit, nous allons en reparler dans quelques instants, et Jésus, pour l'instant, reste seul. J'insiste là-dessus parce que souvent, dans l'Évangile, assez souvent, nous voyons Jésus se retirer pour prier. Ses disciples sont ensemble, ils s'occupent d'autre chose, là, ils s'occupent de repartir devant lui, mais Jésus se retire souvent pour prier. Je crois qu'il y a quelques mois, voire peut-être plus que cela, nous avions étudier ces prières de Jésus. Enfin, nous avions mentionné le fait que Jésus, c'est surtout dans l'évangile de Luc qu'il en est parlé, que Jésus priait assez souvent. Je lis par exemple dans Luc chapitre 3, 21, que quand Jésus a été baptisé d'eau par Jean-Baptiste, pendant qu'il était dans l'eau et pendant que Jean-Baptiste le baptisait, il s'est mis à prier et le Saint-Esprit est venu sur lui. Un peu plus loin, dans le chapitre 4, 42, toujours de Luc, il est dit « Jésus, à ce moment-là, sortit et alla dans un lieu désert pour prier. » Un peu plus loin, il nous est dit « Jésus, lui, pendant que ses disciples faisaient autre chose, se retirait dans les déserts et priait. Un peu plus loin encore, il est dit « Jésus s'en alla prier dans la montagne, il passa toute la nuit à prier Dieu ». Cela, c'était juste avant de choisir ses disciples, ses douze apôtres. Avant de choisir ses douze apôtres, Jésus s'est retiré seul également pour prier et il a passé toute la nuit dans la prière à Dieu. On pourrait continuer, il y a d'autres exemples encore qui montrent que Jésus se retirait souvent, toujours dans des lieux déserts, dans des endroits calmes, pour prier, comme lorsqu'un jour il nous est dit « Jésus priait un jour dans un certain lieu » et après cela, ses disciples qu'il avait vus prier lui ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». Ils se sont rendus compte donc que Jésus priait d'une autre manière, certainement avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de ferveur, et c'est important de voir cela. Alors pourquoi Jésus a-t-il renvoyé ses disciples, pourquoi les a-t-il envoyés pour traverser le lac? En fait, ils n'ont peut-être pas traversé tout le lac, parce qu'il est parlé d'une certaine distance dans le texte. Il est dit qu'ils ont ramé pendant 25 ou 30 stades. 25 ou 30 stades, un stade c'est environ 200 mètres. C'est comme un stade aujourd'hui, un stade de football ou un stade où on fait du sport, du rugby ou autre chose. C'est environ 200 mètres, donc vous multipliez 25 par 2, ça fait 50. Ça faisait donc environ 5 kilomètres. Ils ont ramé pendant environ 5 kilomètres. Je ne sais pas s'il y a des champions d'aviron parmi nous. Non, non, vraiment personne. Bon, moi non plus, surtout pas. Eh bien, ramé pendant 5 kilomètres, c'est une certaine distance, surtout que le vent était contraire. Alors, ils n'ont pas traversé tout le lac parce que le lac était beaucoup plus large que cela, mais Jésus les a envoyés traverser la mer. On pourrait se poser bien sûr la question, mais pourquoi est-ce que Jésus les a envoyés tout en sachant qu'ils allaient avoir de gros problèmes, à savoir une tempête, en tout cas un vent violent. Il n'est pas parlé de tempête dans le texte que nous avons lu, mais un vent violent soufflait et la mer se soulevait. On peut penser tout simplement que Jésus, premièrement, les a envoyés pour pouvoir d'abord prier, et pourquoi pas prier pour eux, parce qu'ils allaient affronter une certaine difficulté, voire même une véritable épreuve. Mais Jésus les a peut-être envoyés simplement devant lui pour que justement ils fassent une expérience. Une expérience qui, et c'est là mon deuxième point cet après-midi, que l'on pourrait appeler la solitude des disciples sans Jésus. Alors vous savez que le chrétien n'est pas appelé à vivre sans Jésus. Quand nous sommes chrétiens, Jésus est avec nous. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, avant de les quitter, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus, en fait, n'était pas très loin. Il était sur le rivage. Mais je ne sais pas ce que c'est que de vivre une tempête. Je n'ai pas vécu moi-même de tempête. Tempête terrestre. Gros coup de vent, oui, ça on connaît dans la région. Enfin, pas seulement dans la région, dans toute la France, il y a parfois de gros coups de vent. Mais un gros coup de vent sur la mer, il paraît que c'est très impressionnant. Et mon père m'a raconté, quand j'étais enfant, on nous racontait qu'il avait traversé un jour la Méditerranée, pourtant sur un gros paquebot qui faisait la liaison entre Marseille et Alger. Et le bateau, à l'époque, à la fin des années 50, mettait 14 heures pour traverser. Alors je ne sais pas combien ça met maintenant, mais je pense que les bateaux plus modernes mettent beaucoup moins de temps. Il disait, à l'aller, nous avons mis 14 heures parce qu'il faisait très beau et la mer était très belle. Au retour, il y a eu la tempête. Et au lieu de mettre 14 heures, on en a mis 24. Alors déjà, la tempête, ce n'est pas agréable, mais si la traversée dure encore plus longtemps, on est donc encore plus longtemps dans la tempête. Et mon père disait vraiment, c'était la panique sur le paquebot, parce que le paquebot, au lieu de naviguer comme ça, naviguait comme ça. Et paraît-il que presque tout le monde était malade. Alors, les disciples étaient des pêcheurs pour la plupart d'entre eux, donc des hommes habitués à traverser le lac. Mais je crois que Jésus a voulu leur enseigner une leçon, à savoir que dans la vie, il y a des épreuves. Dans la vie, il y a des difficultés. On pourrait cependant se poser quelques questions. D'abord, ils ont connu cette tempête alors qu'ils n'avaient fait qu'une chose, c'est obéir à Jésus. Jésus, comme le dit l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc, leur a dit « montez dans la barque ». Il les a obligés à monter dans la barque, ce qui suppose qu'ils ne voulaient pas trop. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient l'impression que le temps se gâtait, ou est-ce parce qu'ils voulaient rester avec Jésus et avec la foule, mais Jésus voulait faire autre chose, Jésus voulait renvoyer la foule, puis prier, donc ils voulaient être seuls. Toujours est-il qu'ils avaient obéi à Jésus. Et vous le savez, l'un des buts, l'un des moteurs de la vie du chrétien, c'est d'obéir à Jésus. La deuxième chose que nous remarquons, c'est que l'obéissance à Jésus ne garantit pas une vie facile. Il ne faut pas que nous pensions que parce que nous obéissons à Jésus, nous n'aurons jamais de problème. Jésus lui-même a dit, il a dit ça à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il a rajouté aussitôt, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, la tribulation fait partie de la vie chrétienne. C'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée, tous ceux qui veulent vivre sérieusement, pieusement en Jésus-Christ, un jour ou l'autre seront persécutés. L'obéissance à Jésus, par conséquent, ne garantit pas la tranquillité. On pourrait d'ailleurs citer bien des exemples dans la Bible. Prenez simplement l'exemple de Joseph. Vous savez, Joseph, le fils de Jacob, dont il est raconté l'histoire dans la Genèse. Vous savez comment Joseph, qui visiblement avait été appelé par Dieu à un brillant avenir, il avait d'ailleurs eu des rêves, encore jeune, adolescent, des songes, et quand il est parlé de songes dans la Bible de ce genre-là, des songes semblables sont souvent envoyés par Dieu pour annoncer quelque chose. C'était des sortes de songes prophétiques, comme on pourrait dire. Eh bien, Joseph avait appliqué son cœur à obéir à Dieu. Vous savez qu'il a été vendu par ses frères à des marchands d'esclaves qui passaient par là, puis il a été revendu par ses marchands à un chef, peut-être un haut fonctionnaire égyptien. Et là, dans cette maison de ce fonctionnaire égyptien, il s'est appliqué à obéir à Dieu. Il a été faussement accusé par la femme de ce chef et il s'est retrouvé en prison. Tout cela parce qu'il n'avait pas voulu désobéir à la loi morale de Dieu. Ce qui montre bien que bien souvent, le croyant qui met un point d'honneur à pratiquer la parole de Dieu, à lui obéir, peut cependant avoir des épreuves. Les épreuves ne sont surtout pas, bien sûr, dans ce cas-là, comme qui dirait, une punition pour quelques mauvaises actions qu'on aurait pu commettre. C'est un petit peu ce que les amis de Job voulaient faire comprendre à Job, à savoir que s'il était malade, s'il était souffrant, si ses enfants étaient morts, si ses possessions, ses biens avaient été détruits, c'était parce qu'il avait sans doute fait quelque chose de mal. Mais ce n'est pas un enseignement de la Bible. La Bible n'enseigne pas que nous sommes malades ou que nous souffrons d'une manière ou d'une autre systématiquement parce que nous aurions fait quelque chose de mal. La vérité est bien plus complexe que cela. Les disciples de Jésus, après avoir consacré leur vie à Jésus, après la Pentecôte, ont vécu de nombreuses persécutions. Certains même en sont morts. Le prophète Jérémie, pour ne citer que lui, pour terminer avec ces exemples-là, le prophète Jérémie a obéi à Dieu dès son enfance, dès sa jeunesse, et pourtant, pendant presque toute sa vie, alors qu'il ne faisait que porter le message de Dieu, a été persécuté. Alors, ce n'est pas non plus une règle dans l'autre sens. Ce n'est pas parce qu'on est croyant ou parce qu'on est fidèle au Seigneur qu'on sera automatiquement persécuté. Il n'y a pas de loi, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il y a des gens qui servent le Seigneur et qui ne vivent pas de grandes persécutions, il y en a d'autres qui en subissent. Et puis on pourrait dire, pour boucler la boucle, on pourrait dire, il y a des gens qui ne croient pas dans le Seigneur, qui ne mettent pas sa parole en pratique, et qui connaissent aussi beaucoup de persécutions. Donc, il n'y a pas de lien direct, il y a simplement une réalité qui se vérifie dans un certain nombre de cas. Alors, si nous revenons à la situation de nos disciples, enfin des disciples de Jésus, qui étaient dans la barque, il y avait pour eux trois facteurs de crainte ou trois facteurs d'angoisse. Essayez de les imaginer. Vous voyez un grand lac dont on ne voit pas l'extrémité, parce que, eh bien, tout simplement d'abord parce qu'il fait nuit, mais même en plein jour, si le temps est clair, on voit l'autre bout. C'est un lac qui faisait quand même peut-être 20 ou 30 kilomètres de large, donc on ne voyait pas toujours l'autre bord. Mais là, c'était encore pire parce que, premièrement, premier facteur d'angoisse, il faisait nuit. Et à l'époque, je le précise, vous le savez bien sûr, on ne voyait pas, si on pouvait distinguer la côte. Vous savez, aujourd'hui, quand on se promène la nuit, on voit des lumières au loin, parce qu'il y a l'électricité. Mais à l'époque, il n'y avait pas l'électricité, donc au loin, on ne voyait pas les lumières des villes. À moins que quelqu'un fasse un feu de camp, mais ce n'était pas tous les jours que ça se faisait. Donc, on avance sur la barque, dans la barque, sur le lac, le vent commence à souffler, les vagues commencent à grossir, et au loin, qu'est-ce qu'on voit? Et autour, qu'est-ce qu'on voit? Rien. C'est tout noir. Vous savez que ça doit être impressionnant quand même, quand c'est tout noir comme ça. Tout noir, tout noir. La nuit était tombée. Dans l'évangile de Marc et de Matthieu, il est dit que la tempête, le vent violent soufflait et que c'était la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire que c'était entre 3h et 6h du matin. Donc vraiment la nuit. En plein milieu de la nuit, quand le vent souffle fort, c'est impressionnant. Je me souviens, ça fait 10 ans qu'il y a eu la grande tempête en France. Il n'y en a pas souvent, donc on se les rappelle. Donc la grande tempête de 99, je me souviens que c'était je ne sais plus quel jour c'était, un dimanche. C'était dimanche matin. Hein. Voilà, il me semblait, j'avais un doute. Voilà, c'était un dimanche, tout le monde se souvient. Hein. C'était un dimanche matin et il faisait encore nuit. C'était la fin du mois de décembre, donc les nuits sont longues. Et je crois qu'il était peut-être 5h, 5h30, 6h du matin. Quand le vent a commencé à souffler de plus en plus fort, et quand on vit en appartement, ça doit être impressionnant, mais quand on vit comme nous dans un pavillon, c'est encore plus impressionnant. Nous dormions au premier étage, comme toujours, et quand on dort au premier étage, juste sous le toit, et que le vent souffle à cette vitesse impressionnante, je crois que c'était 130 ou 140 km/h en rafale, ça ferait un bruit absolument terrible. Moi, quand j'entends ça, je descends au rez-de-chaussée. Vous me direz, l'intensité n'est pas beaucoup plus petite. Hein. C'est comme si vous avez le volume à 8, puis que vous baissez largement et vous mettez à 7. Ça ne fait pas beaucoup moins de bruit, mais on est juste un tout petit peu plus bas et le bruit est un tout petit peu moins fort, mais c'est un bruit assourdissant. Et je me rappelle qu'à un certain moment, j'ai juste voulu ouvrir la porte d'entrée. Je ne pouvais rien voir parce que l'électricité avait sauté. Donc on était dans le noir le plus complet et j'ai ouvert doucement la porte d'entrée. Tout était noir et on entendait ce bruit terrible du vent qui soufflait à 120, 130 km/h. J'ai vite refermé à clé, enfin quoique le vent n'allait pas ouvrir, enfin on ne sait jamais. J'ai bien fermé à clé et puis j'ai écouté ce bruit terrifiant. Et vous pouvez imaginer un instant, les disciples sont dans la barque. Il fait nuit, une nuit noire, il n'y a pas de lumière à l'horizon. Ils sont là tout seuls au milieu du lac, dans le noir. Et les vagues commencent à grossir de plus en plus. Et puis une barque, ce n'est pas un paquebot. Une barque, c'est ballotté par les flots. Il paraît que la mer de Galilée est célèbre pour cela, parce qu'elle est entourée de montagnes, et entre les montagnes, il y a des creux, et le vent s'engouffre dans les creux et souffle sur le lac. Premier facteur d'angoisse, donc, la nuit. Deuxième facteur d'angoisse, le vent. Le vent violent. Troisième facteur d'angoisse, peut-être le principal facteur d'angoisse. Vous savez ce que c'était? Le troisième facteur d'angoisse, le plus grand? Le plus important, moi je pense que s'il n'y avait pas eu ce facteur, ils n'auraient pas eu peur. Il fait nuit, il y a beaucoup de vent et... Ouais, mais troisième, c'est encore plus grave que ça. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Remarquez, vous vous souvenez, dans un autre épisode, Jésus était avec eux. Mais Jésus dormait. Eh bien, le fait que Jésus soit là ne les a pas rassurés pour autant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des vagues, parce que l'eau commençait à rentrer dans la barque, et à un certain moment, ils ont réveillé Jésus en lui disant « Mais Seigneur, ça t'inquiète pas que nous sommes en train de mourir ? Que nous sommes en train de nous noyer, parce que si l'eau continue à rentrer dans la barque, nous allons nous renverser, nous allons mourir. » Et Jésus les a repris pour leur manque de foi. J'ai toujours pensé que si un jour j'étais capable, dans l'épreuve la plus terrible, de dormir, c'est que j'aurais tout compris. Parce que mes amis, si, quand vous traversez la plus grave des épreuves, vous pouvez dormir tranquille, c'est que vous avez tout compris. Alors je ne suis pas là pour vous dire cet après-midi que vous n'avez rien compris. Parce que s'il y a des moments difficiles, vous savez, moi-même je ne fais pas exception, quand les choses sont compliquées, quand il y a des soucis majeurs, on dort moins bien la nuit. Parfois même on ne dort pas du tout de la nuit parce qu'on pense et on repense et on s'imagine qu'à force de penser, on va tout résoudre. Alors que souvent, plus on pense, et plus on complique les choses. Là, les disciples ne pouvaient pas réveiller Jésus. Jésus n'était pas là. Et vous savez que dans l'Évangile, on voit souvent que quand Jésus n'est pas là, les disciples ont tendance à avoir des problèmes. Je me rappelle par exemple dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, nous lisons qu'à un certain moment, Jésus est monté sur la montagne pour prier avec Pierre, Jacques et Jean. C'est là qu'il a été métamorphosé, transfiguré devant eux. Et pendant ce temps-là, dans la vallée, que faisaient les autres disciples sans Jésus? Ils essayaient de chasser un démon d'un enfant. Et vous savez que quand Jésus est redescendu de la montagne avec ses trois disciples, il a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet attroupement ?» Et le papa de l'enfant a dit « Maître, j'ai amené mon fils qui est possédé à tes disciples pour qu'ils prient pour lui et qu'ils chassent le démon, mais ils n'en ont pas été capables. » Jésus leur a fait quelques reproches, puis ensuite il a chassé le démon. Mais nous voyons là encore que quand Jésus n'est pas là, les disciples commencent à paniquer. Ils sont incapables de résoudre les problèmes. Quand les deux disciples qui repartaient après la mort de Jésus et qui n'étaient pas au courant de sa résurrection, les deux disciples qui repartaient vers le village d'Emmaüs marchent tous les deux. De quoi parlent-ils? De la mort de Jésus. De ce qu'ils appellent la fin de leurs espérances. Jésus est mort, tout est fini. Et ils ne se rendent pas compte que quelqu'un marche à côté d'eux, ou plutôt, ils savent que quelqu'un les a rejoints et discute avec eux, mais tellement ils sont pris dans leurs histoires, tellement ils sont pris dans leurs pensées négatives, qu'ils ne remarquent pas que celui qui marche à côté d'eux, c'est celui dont ils pensaient qu'il n'était plus là, c'est Jésus. Vous connaissez bien sûr ce récit très, très, très intéressant et très extraordinaire. Alors, nos braves disciples sont dans la barque, le vent souffle, il fait nuit, et tout à coup, Jésus arrive. Jésus arrive parce que Jésus ne laisse jamais ses disciples dans la détresse. Jésus n'abandonne jamais les siens. Si nous lui faisons confiance, Jésus ne nous laissera jamais tomber. Il y a des textes, j'ai noté dans deux psaumes, « Nombreux sont les malheurs qui atteignent le juste, mais de tous, le Seigneur les délivre. » Et j'ai noté un autre psaume où le psalmiste dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné. » Et bien d'autres textes nous disent cela. Jésus apparaît, mais le problème, c'est que Jésus apparaît d'une manière inhabituelle. Et là, nous touchons à un autre point, ce sera sans doute l'un de mes derniers points, c'est que souvent, quand nous sommes dans la difficulté, dans l'épreuve, nous nous imaginons la manière dont Dieu va nous en sortir. Nous avons toujours une idée du moment où Jésus devrait nous en sortir aussi. Ce moment, c'est le plus vite possible, tout de suite, ce soir ou aujourd'hui, au plus tard demain ou la semaine prochaine. Mais nous sommes toujours pressés de sortir de l'épreuve. Ce qui nous presse moins, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que parfois, il peut y avoir des explications. La Bible ne dit pas que toutes nos épreuves, nous en connaîtrons le sens. Elles ont toutes un sens, mais il ne nous sera pas forcément donné de connaître le sens de chacune. Là, Jésus est apparu au moment où les disciples étaient en pleine difficulté. Et lorsque Jésus, c'est cela le plus surprenant, lorsqu'ils ont vu Jésus, la Bible dit tout d'un coup, alors qu'ils ramaient depuis environ 5 kilomètres, ils ramaient contre le vent, tout à coup, ils ont aperçu Jésus. Dans Matthieu et Marc, il est dit que lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont cru que c'était un fantôme. Dans la nuit, Jésus avait peut-être un éclat particulier, nous ne savons pas, ce n'est pas écrit. Mais ils ont été tellement surpris de sa présence, ou peut-être qu'il est arrivé d'un coup comme ça. Ils l'ont vu. Ils ont cru que c'était un fantôme parce qu'en plus, non seulement il est apparu, s'il était apparu sur le rivage, parce qu'apparemment ils n'étaient pas très loin du rivage quand c'est arrivé, puisqu'ils voulaient le prendre avec eux dans le bateau, mais il est dit aussitôt le bateau a touché la terre. Donc ils étaient tout près du rivage, sans s'en rendre compte parce qu'il n'y avait pas de lumière. Mais la Bible dit que Jésus est apparu, marchant sur l'eau. Alors, on peut imaginer, vous êtes en pleine tempête, vous êtes déjà peut-être un petit peu dépressif parce que vous ne savez pas trop quand ça va se terminer, et vous vous dites, je sais que normalement, on devrait se retrouver à terre un jour, ou à un moment ou à un autre de la nuit, ou de demain matin, mais en plus, tout d'un coup, vous voyez quelqu'un qui apparaît marchant sur l'eau, en pleine nuit, devant vous, tout près de vous, et alors, ils ont pris peur. Pourquoi ? Parce que quand nous vivons dans l'adversité, dans la difficulté, et que Jésus apparaît d'une manière soudaine en venant apporter la solution, nous avons peur. Nous avons peur parce qu'il ne vient pas de la manière dont nous l'attendons. Parfois, le Seigneur va se servir de quelqu'un pour nous parler. Et nous sommes surpris parce que nous ne nous attendions pas à cela. Il m'est arrivé d'attendre une réponse de Jésus à une prière. Et puis, comme Jésus n'avait pas répondu à ma prière de la manière dont j'attendais, alors je n'ai pas cru que c'était lui. J'ai commencé à me poser des questions. Mais pourquoi est-ce que cette personne a dit cela? Pourquoi? Et puis après avoir réfléchi, après avoir prié, je me suis rendu compte que c'était Dieu qui parlait par le moyen de cette personne. Les disciples étaient dans la nuit, le vent était fort, ils étaient seuls. Alors, lorsqu'ils ont vu Jésus, leur imagination a commencé à travailler comme elle travaille quand nous sommes dans la difficulté. Nous pensons, nous réfléchissons, nous essayons de comprendre les choses. Et là, leur imagination leur a joué un tour. Mais Jésus est toujours bon avec les siens. Il est arrivé, il leur a parlé. Et c'est vrai que il faut que Jésus parle pour que nous le reconnaissions. Il a fallu que Jésus parle aux disciples sur le chemin d'Emmaüs pour qu'en entendant sa voix, et quand il a commencé à leur parler et à leur expliquer les choses, ils ont compris que seul Jésus pouvait parler comme cela. Lorsque, rappelez-vous, un autre épisode, et je termine avec cela, lorsque, après la résurrection de Jésus, les disciples sont partis en mer pour pêcher, dans la fin de l'évangile de Jean, ils pêchent, et ce jour-là, cette nuit-là, ils ne prennent rien. Jésus est sur leur rivage, ils l'aperçoivent sur le rivage à l'aube, le jour se lève, et Jésus leur dit, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit, jetez votre filet de ce côté-là. Ils jettent leur filet, et tout à coup, le filet se remplit de poissons. Alors, dans ce geste qu'ils avaient déjà connu plus tôt, puisque Jésus avait déjà fait un miracle de ce genre. Et en entendant la voix de Jésus, l'apôtre Jean a tout de suite compris. Il a dit aux autres disciples, c'est le Seigneur. Parce qu'il avait reconnu ses paroles et sa façon d'agir. Dans l'épreuve, évitons de trop penser. Remettons-nous entre les mains de Dieu. Les disciples se posaient des questions, les disciples ont eu peur lorsque Jésus leur a parlé parce qu'ils ne le voyaient pas, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il agisse de cette manière. Ils pensaient peut-être qu'ils allaient arriver jusqu'à la rive et que là, ils retrouveraient Jésus qui serait venu par la terre parce que le chemin n'était pas si long. Ils l'auraient attendu de toute façon. Jésus est arrivé d'une autre manière, alors leur esprit a dû s'ouvrir pour comprendre que Jésus est libre de ses mouvements. Jésus est libre de son action. Si Jésus veut marcher sur la mer, il marchera sur la mer. Après tout, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé la nature, c'est lui qui a créé les lois de la gravité, la loi de la gravité. Et s'il veut passer au-delà de cette loi, il peut le faire, puisqu'il est le Créateur. Que le Seigneur nous aide à comprendre que Jésus, de toute façon, si nous lui faisons confiance, ne nous laissera jamais tomber. Il choisira le moyen qu'il voudra pour nous répondre. À nous de lui faire confiance et d'attendre sa réponse avec foi. Que Dieu vous bénisse.